Alors, la délégation aux droits des femmes dépend des services de l'État. Je suis donc installée à la cohésion sociale, direction départementale de la cohésion sociale, où il y a plusieurs services, dont la délégation, et nous sommes sous l'autorité de Madame la préfète en département.
Alors, si vous venez aujourd'hui dans le studio de Radio Campus Tours, c'est pour nous parler de déjà du week-end qui va avoir lieu du 24 au 26 novembre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le 25 novembre, c'est la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes, qui est reconnue à l'international, et vous organisez avec la DDFE justement des débats et des choses ce week-end-là. On va en parler plus précisément dans la deuxième partie de l'interview. Est-ce que d'abord vous pouvez nous parler de cette problématique qui est large finalement des violences faites aux femmes, et qui prennent tout un tas de visages finalement.
Oui, tout à fait. Les violences faites sur les femmes ont des caractéristiques particulières, puisque ça touche essentiellement des femmes, même si un petit pourcentage d'hommes sont également touchés, notamment dans le cadre des violences conjugales, qui sont les violences les plus répandues un peu partout, et notamment sur notre département. Donc il est vrai que la proportion connue, en tout cas des services, de nos services, c'est plutôt une proportion entre 90 c'est 95% de femmes et entre 5 et 10% d'hommes. C'est donc ce que nous on connaît. Donc ça prend effectivement des formes extrêmement diverses. Donc ça peut être soit dans le couple, mais en dehors également du couple, bien évidemment, les plus fréquentes étant dans la relation à son partenaire. Donc nous avons des violences qui peuvent être de l'ordre de la violence physique, c'est celle qui est la plus vite visible et reconnue, les violences psychologiques, les insultes, les humiliations, les violences sexuelles, les privations administratives de papier, les violences financières, l'excision, les mariages forcés, la prostitution, l'esclavage domestique. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour.
Ça fait beaucoup de violences, malheureusement, c'est vrai. C'est assez large comme terme, finalement, violences faites aux femmes et aussi à une partie d'hommes, même si c'est plutôt minoritaire. D'ailleurs, vous intervenez du coup le vendredi 24 novembre et vous proposez une journée d'études sur les violences sexuelles. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ce terme de violence sexuelle, parce qu'en ce moment, on en parle beaucoup, notamment avec les réseaux sociaux et le hashtag « Balance ton porc ». Que vous avez certainement entendu parler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, votre point de vue par rapport à cette question-là, et notamment le fait de dénoncer des actes d'agression sexuelle sur les réseaux sociaux ?
Alors déjà peut-être deux points d'éclaircissement pour les auditeurs, c'est il faut distinguer agression sexuelle et viol qui relèvent toutes deux de violences sexuelles mais qui ne sont pas du tout de même nature au niveau pénal et au niveau de la justice. Donc le viol c'est une pénétration dans le corps de l'autre sans son consentement et par soit son propre corps soit par un objet et par n'importe quel orifice du corps. Les agressions sexuelles sont liées aux attouchements, aux baisers volés, etc., etc. Donc là, on n'est pas sur les mêmes mesures. Alors, si nous avons organisé cette journée, c'est que nous avions une augmentation significative des plaintes déposées en matière d'agressions sexuelles et de viols en département, puisque en 2016, nous avons eu plus 28%. Cependant, il y a peut-être deux objets à regarder. La première chose, c'est de savoir si en prenant mieux en charge les personnes dans le département, nous n'avons pas plus de révélations, puisqu'effectivement, une personne qui sait qu'elle peut parler va peut-être plus oser aller en parler. Donc je pense que nous avons plus de plaintes aussi parce qu'on révèle plus de faits. Et puis certainement quand même une dégradation de la relation entre les filles et les garçons liée énormément à l'éducation et notamment à l'accès pour les jeunes à des films pornographiques par exemple. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est vrai que ce type de regard des jeunes sur la sexualité peut tout à fait intégrer des images complètement dégradées des hommes comme des femmes, des hommes qui seraient toujours obligatoires dans la surpuissance et des femmes qui seraient des objets sexuels.
C'est vrai, finalement, il y a ce mot de domination dans la violence faite aux femmes, parce que c'est aussi, vous évoquez les films pornographiques, mais c'est aussi, pour beaucoup en tout cas, cet esprit de domination de l'homme sur la femme qui reste encore ancré dans la société.
Oui, c'est le problème, c'est qu'il faut vraiment relier la question des violences faites aux femmes, qu'elles soient de toute nature, à la question de domination et surtout à la question d'égalité. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes en charge en département, au niveau de, les délégués sont tous en charge, il y en a une par département. Nous sommes en charge de travailler à la fois sur l'égalité entre les femmes et les hommes, quelle que soit la structure. Ça peut être dans l'entreprise, ça peut être sur l'emploi, n'importe quel type d'emploi, sur la formation, l'orientation des jeunes filles qui vont sur 12 familles professionnelles alors qu'il n'en existe 87. Voilà, on voit bien qu'il y a un problème, même si dans les textes de loi, l'égalité est parfaite et est atteinte, mais dans la réalité des faits, notre histoire, notre civilisation, notre culture fait que même si les textes administratifs et législatifs l'intègrent, nos cerveaux ne l'ont peut-être pas encore intégré.
Vous avez évoqué le nombre de personnes, de victimes qui portaient plainte. Alors selon vos chiffres, préfet d'Indre-et-Loire, je sais que vous avez ramené des chiffres aujourd'hui dans le plateau, seulement une victime sur 10 victime de viol ou tentative de viol porte plainte.
Oui, alors...
Qu'est-ce qui explique ce chiffre si faible finalement ?
Alors, plusieurs choses. Je pense qu'il faut comprendre qu'une personne qui a été agressée sexuellement, si on ne parle que de celle-là, il y a un phénomène de honte. C'est pour ça que vous entendez certainement sur les slogans, sur les réseaux internet, que la honte doit changer de camp. C'est quelque chose qu'on reprend très régulièrement parce qu'effectivement, souvent les victimes sont honteuses alors qu'elles sont vraiment victimes et elles se trompent de cible, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas en responsabilité sur l'agression, mais c'est bien l'auteur de l'agression qui est pleinement responsable de l'agression.
Évidemment, évidemment. On parle aussi, plus généralement maintenant, des agressions sexuelles. En 2016, alors ça c'est des chiffres nationaux, il y a 600 000 femmes qui en auraient été victimes et 200 000 hommes en France. Donc comme on l'a évoqué, même si c'est minoritaire, les hommes sont aussi impactés par ça. Est-ce qu'en France, c'est des chiffres qui sont plus élevés qu'ailleurs, ça ? Ou c'est finalement quelque chose qui est assez fréquent en Europe notamment des agressions sexuelles.
Alors, je ne peux pas vous donner précisément des éléments parce que je n'ai pas fait d'études à l'échelle de l'Europe ou mondiale. Évidemment qu'il y a des pays dans le monde où les femmes sont bien plus victimes encore qu'en France, bien évidemment, notamment dans les pays où le viol de guerre est encore utilisé. Mais de toute façon, la France est sur des données très sensiblement égales, je pense, aux pays de l'Europe en général, avec peut-être quelques pays du Nord qui seraient un petit peu plus avancés que nous. Le Canada, on le sait, hein, c'est souvent aussi ce pays qui est très en avance, la Suède, la Norvège. Voilà, mais sinon, je pense qu'on est à peu près
dans la même tendance. Il y a aussi, il faut dire, donc le 25 novembre, on le rappelle, donc c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a aussi d'autres journées qui sont pour les femmes et pour lutter contre ces violences et contre les inégalités plus généralement. Alors il y a évidemment le 8 mars, la journée mondiale des femmes. Il y a
aussi... Alors je m'excuse de vous couper, c'est pas la journée mondiale des femmes, c'est la journée internationale pour les droits des femmes. C'est-à-dire que c'est une journée qui célèbre l'ensemble des luttes que les femmes ont dû conduire pour atteindre les mêmes droits que les hommes.
Effectivement, vous avez bien fait de me reprendre, j'ai été assez... j'ai bâclé un peu le titre de cette journée. En revanche, il y a aussi le 11 octobre, la journée internationale de la fille, des droits de la fille plutôt, pour être précis. Trois journées, est-ce qu'on en fait assez par rapport à ça ? Est-ce qu'on en fait trop aussi peut-être ? Est-ce que ces trois journées ont lieu d'être finalement ?
Alors moi je pense qu'il est important de marquer, ça permet d'avoir un surligneur pour mettre des dates importante. Les journées n'ont pas été choisies au hasard. Par exemple, le 25 mars célèbre le triste anniversaire de l'exécution de trois femmes militantes dans leur pays. Mais les journées n'ont pas été choisies au hasard. En revanche, je pense qu'au-delà du symbole de la journée, c'est un problème de société très très important qui concerne les femmes et les hommes, les deux, et dont il nous faut parler tous les jours et pas seulement à ces dates anniversaires qui sont simplement des drapeaux, hein, des marqueurs, mais je pense que c'est toute l'année. Et les femmes, quand elles ont combattu tout le temps. Elles n'ont pas combattu qu'à ces deux dates-là.
Alors, je reprends juste ce que vous venez de dire. C'était le 25 novembre C'était pas le 25 mars, pour être précis. C'est trois femmes qui ont été tuées. On va en reparler tout à l'heure, qui ont donné finalement naissance à cette journée du 25 novembre. Est-ce qu'on peut maintenant parler des violences conjugales, et notamment en 2016, 144 victimes, donc mortes, de personnes mortes sous les coups de leur mari ou femme, ou évidemment, parce qu'il y a aussi 22 hommes sur les 144, donc 122 femmes qui sont mortes sous les coups de leur mari. Est-ce que c'est... Alors c'est malheureusement en hausse par rapport à l'année d'avant. Qu'est-ce que vous évoque ce chiffre ?
C'est en fait le degré extrême des violences faites sur les femmes, puisqu'effectivement il y a des femmes qui décèdent sous les coups. Alors c'est pas forcément leur mari, ça peut être leur compagnon, voire leur ex-compagnon, marié ou pas, parce qu'en fait on s'aperçoit qu'au moment de la séparation, et vous me demandiez pourquoi elle ne déposait pas des plaintes, ça fait partie aussi d'un des aspects, c'est-à-dire quand elle quitte, ça plaît pas du tout à monsieur qui est dans une forme de domination, et du coup les risques peuvent s'amplifier. À ce moment-là, on sait que la grossesse aussi est un facteur qui amplifie les risques. Les femmes décèdent sous des coups de conjoint. Donc ça, ce sont les choses qu'on connaît, qui sont révélées. On ne compte pas là-dedans les suicides, par exemple, des femmes. Or, on a quand même des femmes qui portent atteinte à leur jour. Je veux signaler que sur les victimes, il y a également des enfants. Il ne faut pas les oublier. Ils sont souvent co-victimes. Et certains auteurs se tuent avec leurs enfants. Voilà, donc c'est vrai que c'est l'ultime punition pour la compagne que de lui retirer par la mort ses propres enfants. Voilà, donc, et puis je veux non pas que ce soit excusable et pardonnable, mais parmi les auteurs, enfin parmi les hommes victimes de crimes de la part de leur conjointe, de leur partenaire, il faut savoir quand même que à peu près 30 à 50% d'entre eux étaient auteurs.
Oui, c'est important de le préciser.
Alors qu'on ne voit pas l'inverse. On ne voit pas de femmes qui étaient auteurs.
Est-ce que vous avez des chiffres maintenant plus locaux, sur l'agglomération Tourangelle ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ces violences faites aux femmes ?
Oui, alors on a des chiffres, nous, chaque année, donc il y a un protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, dans lequel il y a environ 54 partenaires différents, très très diverses, puisqu'il y a des associations, mais il y a aussi des collectivités, il y a police, évidemment, mes collègues de la police et de la gendarmerie, il y a le parquet, le tribunal, l'hôpital, enfin je ne vais pas tous les citer, parce que ça va être très long de faire la liste, partenaires que je remercie, parce qu'ils ont tous, à mes yeux, une égale valeur, parce qu'ils ont tous leur importance sur le territoire, et l'idée c'est de mailler pour qu'on prenne au mieux en charge cette problématique, que ce soit du côté des victimes, que ce soit femmes ou enfants, ou du côté des auteurs, la plupart du temps des hommes. Donc c'est très très important d'avoir cette collaboration, et les chiffres que je vais vous donner sont le fruit de cette collaboration avec l'ensemble des partenaires. Donc pour vous dire quand même que par exemple, si je vous donne quelques données d'information sur comment nous on a informé le public, je peux vous dire qu'on a distribué à nous tous à peu près entre 7 et 8 000 plaquettes d'informations, ce qui n'est quand même pas rien, et que nous avons formé près de 5 000 personnes. Voilà, donc c'est important, la formation va être essentielle sur ces questions-là, puisqu'il faut que les personnes qui souhaitent intervenir puissent être formées et qualifiées pour faire des interventions à bon escient. Parce que la bonne volonté et le plaisir et le désir de vouloir aider sont très loin de suffire pour la prise en charge. Donc il faut vraiment des personnels qualifiés. Nous formons chez les étudiants. Pour ce qui est de la prise en charge des victimes, je peux vous dire qu'on a eu à peu près sur la zone police et gendarmerie confondue. Donc là, à l'échelle du département, nous avons eu près de 1700 plaintes, ce qui est beaucoup. Qui est beaucoup, mais parce que...
Ce qui est du coup sûrement sous-estimé.
Alors, c'est forcément sous-estimé, puisque nous aussi, on est à peu près comme le chiffre national, c'est-à-dire, on serait sur une femme sur 10 qui serait victime, ou aurait été victime de violences au cours de sa vie. Donc, on est malheureusement pas mieux que le niveau national. En revanche, je pense que l'on est mieux sur la prise de plainte, puisque nous avons augmenté quand même en 10 ans. Nous sommes passés de 350 plaintes à 1700. Donc, je pense que nous avons une prise en charge différente, différenciée, qui permettent d'être plus optimum sur tout ce qui va se passer dans le parcours de la victime notamment.
Et peut-être qu'aujourd'hui aussi, les femmes osent plus porter plainte, même si évidemment tout n'est pas parfait et toutes ne le font pas. Mais peut-être qu'il y a aussi les langues qui se délient un peu, et finalement les réseaux sociaux sont aussi la preuve que ça bouge petit à petit, même si c'est encore trop lent.
Oui, c'est trop lent, mais c'est une très bonne chose. En fait, plus il y aura de plaintes quelque part, ou tout au moins de signalements, c'est pas forcément des plaintes, ça peut être des mains courantes, ça peut être des renseignements judiciaires, enfin en tout cas le signalement en gendarmerie de faits, sachez quand même que dans le dossier ça va rester et que ça laissera des traces si un jour la personne est prête à porter plainte et ou qu'il est nécessaire qu'elle le fasse. Donc ce sera des dossiers qui vont rester, et effectivement je pense que dans ce département on révèle plus qu'ailleurs, même si on est loin du compte encore, puisque si on compte, moi je me suis amusée à faire non pas des statistiques mais des petites projections, et on voit si on prend le nombre de femmes sur le département, qu'on enlève les mineurs, qu'on prend des femmes adultes seulement, puisque je ne m'occupe pas moi des violences sur mineurs, c'est nos collègues du conseil départemental qui le font, on est probablement entre 25 000 et 30 000 femmes qui seraient potentiellement victimes en prenant cet aiguillage de 1 sur 10. Voilà. Donc on est très loin.
En Indre-et-Loire, là, pour le coup, géographiquement. Oui. Voilà, je vous propose un petit quiz par rapport à ça. C'est parti, je mets le jingle. Première question. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc je pense que vous n'aurez pas de mal à me donner la bonne réponse. Pourquoi le 25 novembre est-il la date de la journée de la lutte contre des violences faites contre les femmes? Est-ce que vous savez la signification de cette date?
Alors, j'ai plus le nom en tête, mais oui, effectivement, c'est une date pour laquelle des trois sœurs qui étaient en lutte dans leur pays pour leurs droits se sont fait assassiner. Et l'ONU a décidé que tous les pays du monde, tous ceux qui le veulent en tout cas et qui appartiennent à l'ONU, feraient une journée de célébration pour éradiquer, en fait, au départ, c'est l'élimination des violences faites aux femmes. Après, on voit bien que pour éradiquer, il nous faudra probablement très longtemps, en étant optimiste. Déjà, si on arrive à lutter contre et faire de la prévention, ça me paraît déjà important.
Alors effectivement, vous avez tout à fait raison, c'était la bonne réponse. Je rajouterai juste que ces sœurs s'appelaient Mirabal de leur nom et elles ont été assassinées le 25 novembre 1960. Et en fait, elles étaient en lutte contre la dictature de Rafael Trujillo, pardon pour la prononciation, mais un dictateur en République dominicaine. Voilà pour la signification finalement de cette date du 25 novembre. Deuxième question. À quand remonte l'autorisation aux femmes d'ouvrir un compte en banque et plus généralement de la fin de leur incapacité juridique, de l'incapacité juridique de l'épouse en France?
Alors, ce sont pour moi deux dates différentes. J'ai 1965 pour le fait d'avoir un chéquier, d'avoir l'autorisation, un compte à son nom et l'autorisation de travailler sans que le mari n'ait à se prononcer. Et pour moi, la fin, en fait, si on parle du code napoléonien et la fin de la minorité à vie des femmes, on est plutôt sur 1938.
C'est exactement ça. Parfait, bonne réponse.
C'est exactement ça.
C'est vrai que, bon, on n'en a pas parlé, mais c'était il y a 50 ans, c'est quand même, enfin 52 ans pour être précis, aujourd'hui ça nous paraît impensable. Aujourd'hui, toutes les femmes, évidemment, ont un compte en banque, elles ont cette indépendance, et heureusement, mais il y a 52 ans, c'était pas encore le cas, c'est quand même assez perturbant presque.
Oui, mais en fait, vous voyez que c'est pour ça qu'il y a beaucoup encore de stéréotypes en place, c'est que tout compte fait par rapport à l'histoire de notre pays et de notre civilisation, c'est assez récent.
Troisième question, est-ce que vous pouvez me donner en pourcentage l'écart encore entre le salaire féminin et le salaire masculin en moyenne en France ?
Alors, sur la région centre, on est autour de 19,2. Pour la France, on est autour de... Enfin, si on mélange vraiment tous les endroits de France, y compris les dom-tom, on doit être autour de 23%. Ce que je voudrais préciser, parce qu'au-delà du pourcentage, je trouve qu'il y a une phrase qui explique bien aux auditeurs quel est cet écart. Il faut savoir tout simplement que en France, depuis le 3 novembre, c'est comme si les femmes n'étaient plus payées pour finir l'année.
Eh ben, parfait, vous m'enlevez les mots et les chiffres de la bouche. Effectivement, le 3 novembre dernier, donc c'est comme si les femmes travaillaient pour rien finalement. Et bon, moi j'avais 24% national, mais vous aviez à peu près raison. En tout cas, en Touraine, c'est moins. 19,5% en Indre-et-Loire plutôt.
Oui, enfin en Indre-et-Loire, et puis la région centre est plutôt bien positionnée par rapport au niveau national.
C'est un peu moins effectivement que la moyenne. Quatrième question. À quand remonte l'abrogation officielle de l'interdiction du port du pantalon pour les femmes?
Ça, c'est assez récent, parce que c'est une loi qui avait été oubliée. Et donc, je n'ai pas la date, parce que ce n'est pas une date cruciale pour moi, dans la mesure où c'est...
Effectivement, c'est plus anecdotique qu'autre chose, mais ça date de 2013. Donc, c'est assez drôle, mais c'est une loi qui avait été effectivement oubliée. Dernière question, qui a dit, alors c'est une citation évidemment, qui a dit « Hommes et femmes, chacun est complémentaire de l'autre ». Ah, c'est dur, hein.
Ah oui, là, je ne sais pas le jeu des 1000 euros.
Ouais, voilà.
Mais je dois dire que ça m'échappe.
Alors, pour le coup, c'est Gandhi. Donc fervent défenseur évidemment de l'égalité homme-femme et puis de la révolution non-violente comme il l'appelait. Qu'est-ce qu'elle vous inspire finalement cette citation et cette phrase?
Mon travail de tous les jours, je dirais.
Votre travail de tous les jours? Oui, effectivement, parce qu'on a encore évidemment beaucoup de chemin à faire avant d'arriver à l'égalité parfaite et du moins à l'éradication plutôt des violences faites aux femmes. J'aimerais qu'on revienne maintenant sur ce week-end et sur ce qui va se passer, notamment dès vendredi 24 novembre 2017. Est-ce que vous pouvez nous présenter la journée d'études sur les violences sexuelles que vous organisez ce vendredi ?
Oui, alors c'est une journée d'études qui aura lieu à la Pléiade à La Riche. Il faut s'inscrire pour pouvoir y participer puisque nous avons une jauge limitée bien évidemment. Donc il suffit de me contacter pour pouvoir s'inscrire. Il y a un mail d'inscription dans l'affiche et sur le site de la préfecture on peut trouver le mail pour s'inscrire. C'est une journée réservée aux professionnels prioritairement bien évidemment puisque l'idée est de les faire monter en compétence au niveau du département sur cette prise en charge. Donc nous aurons au niveau de l'ouverture, c'est une sociologue du LERFAS qui est un laboratoire de recherche en Indre-et-Loire qui fera une partie sur pourquoi des violences sexuelles sur les femmes plus que sur les hommes. Donc elle nous parlera de tout ça dans notre histoire également. Puis nous aurons le docteur Muriel Salmona qui est une personne extrêmement qualifiée qui viendra de l'Île-de-France hein, et qui est une personne qui a travaille énormément sur l'amnésie post-traumatique liée au viol, par exemple, qui a un site très très intéressant sur les violences sexuelles et qui travaille avec des victimes depuis fort longtemps. Elle sera là en fin de matinée et en début d'après-midi. Puis ensuite, nous aurons le docteur Courtois qui travaille sur les auteurs de violences, donc sexuelles aussi. Donc c'est très intéressant d'avoir aussi ce versant-là. Nous aurons ensuite le professeur Pauline Saint-Martin de l'Institut médico-légal. Et pour finir, nous aurons également la présentation d'un atelier thérapeutique du département, puisque nous n'avons pas le temps d'exposer plus, mais nous avons un atelier thérapeutique, un atelier d'escrime thérapeutique, qui a été mis en place par Violaine Guérin, qui est médecin en Île-de-France, et qui est d'ailleurs présidente au niveau national de l'association Stop aux violences sexuelles. Et nous expliquerons comment fonctionne l'escrime thérapeutique.
Alors, le samedi 25 novembre aussi, vous faites ce qu'on appelle un procès d'assises fictif. Qu'est-ce que ça veut dire, procès d'assises fictif ?
Alors, nous avons été, nous souhaitions informer la population sur ce qu'était le viol conjugal. Parce que malheureusement, en matière de viol, souvent les femmes considèrent que si c'est leur conjoint, il ne peut pas y avoir viol puisque c'est leur compagnon de nuit. Et donc, nous souhaitons vraiment informer la population sur non seulement le fait que quand une personne se saisit du corps d'une autre sans le consentement, qu'il soit son conjoint ou non, ça s'appelle un viol. Et quand c'est son conjoint, c'est simplement son conjoint ou son compagnon, c'est simplement une circonstance aggravante. Donc nous souhaitions informer le public et nous souhaitons aussi informer sur comment fonctionne une cour d'assises en France, puisque nous avons beaucoup de feuilletons américains à la télé, mais qui nous font voir surtout comment ça fonctionne aux États-Unis et pourquoi ce procès d'assises sur le viol conjugal, parce que c'est une façon ludique d'apprendre les choses avec un débat derrière. Et je voudrais signaler, d'abord remercier tous les partenaires, et ils sont très nombreux à avoir participé, puisque aucun comédien professionnel ne participe à cette pièce, ce ne sont que des partenaires du réseau de prévention et de lutte contre les violences.
Donc en fait, vous recréez un jugement en assise.
Tout à fait.
De façon complètement fictive, évidemment.
Absolument, décors ont été faits par des élèves, tout est recréé sur le plateau de la Pléiade. Je remercie d'ailleurs la ville de La Riche qui nous prête son plateau et qui nous prête la salle.
Voilà, effectivement, et c'est à partir de 14h30. Alors il y aura aussi d'autres activités, je dirais, pendant ce week-end, et notamment quelque chose qui m'a un peu interpellé, on en a parlé hors antenne, un cours de self-défense organisé par l'association Sésame, donc le samedi 25 novembre. Alors évidemment, vous faites pas partie de cette association, mais est-ce que vous pouvez nous dire en quoi un cours de self-défense peut permettre aux femmes de finalement avoir moins peur et savoir si ça, finalement, c'est suffisant pour lutter contre les violences faites aux femmes?
Alors je vais répondre par la fin. Non, ce n'est pas suffisant. Oui, ça peut être intéressant parce que c'est de la self-défense féminine et donc c'est une approche un peu diverse. Enfin, c'est très différent de la self-défense tout court. L'idée étant aussi de redonner confiance en elles à certaines femmes, leur apprendre à appréhender la peur qu'elles peuvent avoir. Donc c'est vrai que pour certaines population féminine, ça va peut-être pas fonctionner, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit en début d'émission, les violences peuvent être extrêmement diverses et donc il faut pouvoir offrir des possibilités de se remettre droite dans ses bottes à des femmes extrêmement différentes qui ont des besoins très différents. Donc il faut aussi des programmes très différents et la self-défense féminine peut être en tout cas d'un grand intérêt, par exemple pour des femmes qui subissent du harcèlement de rue et qui voudraient simplement pouvoir se défendre si on les touche, par exemple.
Est-ce que la vraie solution, c'est pas la prévention, finalement ?
Absolument. D'ailleurs, nous en faisons beaucoup sur le département. Pour nous, c'est la formation, la prévention sont les maîtres mots, puisqu'évidemment, si on arrive à prévenir, il n'y aura pas de victimes. Et donc, on fait vraiment des économies d'échelle et surtout par rapport aux personnes victimes, il y en a moins. Et du coup, c'est vraiment ça qu'on vise. La prévention, elle est essentielle. Elle est essentielle déjà pour démarrer sur le respect mutuel, déjà chez les petits. Je pense qu'il faut faire de la prévention dès la maternelle. À l'école primaire. D'ailleurs, je travaille énormément avec l'éducation nationale. Nous avons monté un réseau départemental pour l'égalité entre les filles et les garçons. Nous travaillons beaucoup sur ces sujets. Et puis après, le collège, qui sont les années peut-être les plus délicates, on va dire. Le lycée et puis l'université, puisque je travaille énormément également avec l'université. Donc la prévention, il faut en faire à tous les échelons. Il faut aussi en faire avec les jeunes qui sont sortis du système scolaire, comme les missions locales, les bureaux information jeunesse, toutes les associations d'éducation populaire, c'est très très important. Et puis, pas seulement au niveau scolaire, mais aussi extrascolaire. Je pense qu'avec les animateurs, il faut penser à leur donner des clés, des outils, de manière à ce qu'ils fassent des animations non sexistes et les plus égalitaires possibles. C'est très très important de travailler en amont. Et d'ailleurs, nous faisons beaucoup d'actions de prévention, puisqu'au total, sur le département, on a énormément de jeunes qui ont été, comment dire, qui ont été sensibilisés dans les écoles notamment.
D'ailleurs, ce que vous faites ce week-end, finalement, c'est aussi de la prévention, que ce soit par le procès d'assises ou par la journée d'études sur les violences sexuelles faites aux femmes. J'en profite, pardon, pour rappeler comment ça va se dérouler un peu ce week-end. Donc le vendredi 24 novembre, de 9h à 17h à la Pléiade, à La Riche, il y aura cette journée d'études sur les violences sexuelles organisée donc par Vos Soins, par la DDFE. Je le rappelle une dernière fois, si je me trompe pas dans mes notes, DDFE, ça veut dire Délégation aux droits des femmes et à l'égalité d'Indre-et-Loire, entre parenthèses évidemment, puisque vous dépendez de la préfète, c'est ça ?
C'est ça.
Bon, parfait, j'ai pas fait d'erreur sur ça. Et il y aura aussi, de votre part, le samedi 25 novembre, donc ce procès d'assises, à 14h30, pareil, à La Riche.
Juste vous dire que ce procès actuellement est complet. Nous jouons à guichet fermé. Cependant, les personnes qui seraient intéressées peuvent continuer à s'inscrire sur le lien inscrit en préfecture. Parce que si nous avons un certain nombre de personnes, et a priori nous avons déjà plus de 120 personnes en trop, donc nous allons refaire ce procès, nous allons le représenter à nouveau probablement au mois d'avril.